Bonjour à chacun. Alors, bon, ce matin, je vais encore vous parler du repos. Ça va être la dernière fois parce que je vais clôturer la série. Voilà, donc la dernière couche, enfoncer le clou. Et pour parler du repos, un truc qui me repose vraiment, moi, c'est la bande dessinée. Je suis un grand fan de bande dessinée, j'ai grandi avec ça, avec les Lucky Luke, avec les Astérix, les Gaston Lagaffe. Un peu plus tard, j'ai découvert Achille Talon. Alors ça c'est ma BD, Achille Talon, je trouve ça génial. Il y en a qui détestent, qui trouvent ça super ennuyant, parce qu'il y a beaucoup de textes. Et donc, pour illustrer ce que je vais partager ce matin, j'ai pensé à une bande dessinée, Astérix en Corse. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est là. C'est vraiment un super album. Alors en fait, c'est les Romains qui ont envahi la Corse. Et puis, à la romaine, ils mettent tous les rebelles comme es des esclaves. Alors les Corses, on les connaît. Au moins, on connaît la réputation. Donc là, on voit trois Corses, quatre Corses enchaînés. Et puis, ils sont des esclaves. Et le Romain, il leur dit, parce que je pense peut-être vous lisez pas bien, bon ben au travail, il faut porter tout ça à bord de la galère. Donc il y a un grand bateau à remplir. Alors 20 minutes plus tard, un esclave corse commence le chargement et on le voit, il est à la Corse quoi, tranquille. Donc petit temps fort. Il arrive dans le bateau, mais à ce rythme-là, ça va prendre des années, et à cause de la garnison, il faut interrompre le travail au lever du jour. Voilà, le maître du bateau, il est catastrophé. Et donc l'esclave, il rentre tranquillement dans le hangar, et puis il dit à ses copains, vous pressez pas les enfants, on a des années pour faire le travail, et le jour, il faut rien faire. Et l'autre qui dit, j'ai un cousin qui a un emploi comme ça dans l'administration à Massilia. Voilà, puis une dernière planche. Ça, c'est un chantier qui a commencé depuis 3 ans et ils ont posé trois rangées de pierres. Bon, on est plein de clichés sur les Corses et on les aime bien. Alors, je suis désolé s'il y a des Corses dans la salle et c'est pas mon cliché des Corses. Et donc, le titre du message ce matin, c'est Travailler dans le repos. Travailler dans le repos. Est-ce possible? Je ne sais pas ce que ça produit dans vos têtes, dans nos neurones. Le mot travail, le mot repos, est-ce qu'ils sont compatibles côte à côte? Est-ce que c'est plutôt travailler ou se reposer? Ouais, les Corses, eux, ils y arrivent. Conciliable ou pas? Alors, Jésus, il a parlé du repos. Et bon, je vais juste rappeler courtement un petit verset qu'on a entendu dans toute cette série, si tu peux mettre la suite. Voilà. Donc Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et ce que fait Jésus, en fait, c'est qu'il associe les deux. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le repos de notre âme, donc ça veut dire un repos quand même profond, est compatible avec un joug et un fardeau. Donc, a priori, ce n'est pas incompatible. C'est juste ce que je voulais dire. Et j'aimerais faire le bilan de cette série et nous poser cette question. Ok, on a entendu plusieurs messages sur le repos. On a pu méditer, on a pu grandir dans une compréhension du repos. J'espère aussi dans notre pratique du repos. Je vois vos visages, je pense que je vois les gens reposés à peu près, ça va. Et donc, la question c'est, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Est-ce qu'on va classer le dossier jusqu'aux prochaines vacances? Et puis, dès qu'on va basculer la semaine prochaine dans l'autre thème, là, tata, le travail reprend et puis on va oublier. Ou est-ce que on va demeurer dans ce repos et même cultiver ce repos afin de pouvoir travailler dans le repos. Et je trouve ça un bon défi. Moi, personnellement, j'ai vraiment besoin de relever et de gagner ce défi parce que cette année, j'étais fatigué. Et je crois qu'il y a une clé. Vous savez, le repos, ce n'est pas juste un thème sympa de l'été, des vacances. C'est vraiment un thème sérieux, en fait. Et Dieu veut qu'on réussisse notre travail. Il veut une qualité dans notre travail. Et pour cela, il faut une qualité dans notre repos. Donc, je voudrais vraiment nous encourager, en clôturant cette série, à peut-être revenir sur certaines prédications, certains points qui vous ont interpellé, pour vraiment prendre au sérieux cette affaire et le cultiver tout au long de cette année, afin qu'à clé, ce soit un repos toute l'année. Alors, pour creuser ça, je voudrais parler de ce que la Bible présente comme le repos ultime. Ouais, la Bible parle d'un repos ultime. Je crois qu'il n'y a pas plus grand repos que ça. Et dans ma dernière prédication, j'avais terminé en disant que le repos, en fait, ce n'est pas tant une période de détente qu'on s'octroie, que la société, notre travail nous permet. C'est beaucoup plus que cela, c'est beaucoup profond que ça. Et dans un sens, le repos, c'est un état dans lequel nous vivons. Un état. C'est une manière de vivre, c'est une attitude. Et en fait, plus justement, c'est une position spirituelle, le repos. Et donc, c'est ce repos-là que je voudrais creuser. Et quand j'ai dit ça à la dernière prédication, j'avais avancé une preuve dans la Bible, c'est qu'Adam a été créé le sixième jour. Une fois que tout le travail a été fait. C'est-à-dire que Dieu bosse du premier au sixième, et puis là, Adam arrive, tout est fait. Alors, je trouvais ça super intéressant. Et c'est ce repos que la Bible appelle le repos de Dieu, le repos du sabbat, le repos du septième jour, que la Bible, en fait, nous invite à vraiment nous saisir, à entrer. Jésus nous a donné de pouvoir entrer à nouveau dans ce repos-là. Et donc, il y a un verset qui dit en hébreu, « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. » Voilà, donc l'invitation est là, et donc je vais tout faire pour que nous puissions répondre à cette invitation. Alors le repos du sabbat, donc ça commence en Genèse, si tu peux me passer la slide sur Genèse. Donc ces textes de Genèse qu'on connaît bien, et je trouvais beau, on les a chantés. On a chanté à Dieu qui crée le monde, les étoiles, etc. Et puis, ben, pour couronner l'œuvre de création, il a mis le meilleur et il a mis l'homme. Nous, vous et moi. Et Dieu créa l'homme à son image. Et là, Dieu dit trois fois, il le créa, il le créa, il le créa. Pour vraiment insister, pour dire c'est vraiment là qu'il a mis tout le meilleur de sa création. Et Dieu bénit l'homme. Et il dit, multiplie-toi. Et domine. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon, et même très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le sixième jour. Et puis, le texte continue, deuxième slide s'il te plaît. Ainsi furent achevés le ciel, la terre, toute leur armée, le septième jour. Toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Alors, Dieu se reposa en ce jour-là. De toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Dieu bénit le septième jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Dieu se reposa. Alors littéralement, le verbe hébreu, c'est « il cessa ». Il cessa. Et ça a donné ce mot, le mot « Shabbat », sabbat. Dieu cessa de créer. Parce que le texte nous dit « la création était achevée ». Ensuite, on voit que Dieu bénit ce septième jour. Et on comprend dans ce texte que vraiment c'est une grosse bénédiction. C'est comme un peu le feu d'artifice final de la création. C'est vraiment la grosse fête parce que la création est achevée. Et là, bénédiction, nuée de grâce, une immense faveur de Dieu sur sa création. Et Dieu sanctifia. Et c'est vraiment intéressant que les mots dans la Bible sont très précis, et surtout dans ce texte, tous les chercheurs sont d'accord pour dire que c'est un texte extrêmement travaillé. Chaque mot a un poids. Et cette création a été sanctifiée, rendue sainte, mise à part, consacrée. Et en fait, ça veut dire que la création a été consacrée pour célébrer la gloire de Dieu. Que finalement, toute la création est destinée à vivre un culte. Donc le culte, là, dans ce texte, ce n'est pas le dimanche. C'est une vocation, c'est inscrit même dans les gènes de ce qui a été créé. Ce qui a été créé est là pour offrir un culte à Dieu. Il y a des belles formules comme ça que j'ai trouvées dans des livres qui parlaient de la création comme le théâtre de la gloire de Dieu. Je trouve ça magnifique. Donc c'est l'apothéose de la création. Et puis donc, ce septième jour est particulier. Parce que tous les jours précédents, il est dit dans le texte, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le xème jour. Et là, pour le septième jour, il n'y a pas cette formule. Et là encore, quasiment tous les théologiens, chercheurs, etc. sont d'accord pour dire que là, il y a une indication pour dire que ce jour n'a pas de fin. Et qu'en fait, c'est une ouverture vers une ère éternelle. Le premier qui l'a formulé adroitement, c'est saint Augustin. Il y a là un jour éternel. Et finalement, l'homme sommet de la création commence sa vie et il entre dans un septième jour qui est une ère, un siècle. Voilà, c'est là où il va vivre, travailler, développer son histoire. La création de l'homme couronne l'œuvre, mais le sabbat en est le but. C'est Henri Blocher qui dit ça. Et donc, voilà ce que Dieu dans son cœur, quand il nous a créés, avait comme intention, comme projet pour nous, c'est que l'homme vive et s'épanouisse dans un septième jour, béni et sanctifié, consacré. Et donc, le travail, parce qu'il faut bien venir au thème, je suis désolé, je prononce le mot « travail hein, ». On est encore en vacances. Donc le travail d'Adam était destiné à se dérouler dans le septième jour, c'est-à-dire dans un jour béni, dans un jour où il y avait une faveur de Dieu sur tout ce que l'homme faisait et sur son travail. Et remarquez que Adam n'avait aucune part dans les six premiers jours. La tâche d'Adam n'était pas de transformer le chaos informe et vide en un jardin magnifique sur une merveilleuse planète entourée de belles étoiles. Ça, c'était la part de Dieu. La tâche d'Adam, c'était de travailler, de garder, de cultiver, de faire prospérer, de dominer et d'étendre la royauté de Dieu sur la création. Mais pas de transformer le chaos en quelque chose d'ordonné. C'était la part de Dieu. Dieu a une part dans notre travail. Ce qui est beau, c'est que Adam est invité en fait à travailler dans le prolongement du travail de Dieu, que finalement, notre travail, le travail de l'homme, de l'être humain, s'inscrit dans le travail de Dieu qui est plus large et plus grand. Notre travail poursuit, dans un sens, le travail de Dieu. Et puis, on le sait, la chute est venue. La pomme a été croquée, malédiction, le sol est maudit et tu en tireras beaucoup de mal avec beaucoup de peine et de sueur et il sera ingrat le sol. Et donc ça a annoncé que le péché en fait a maudit, il a amené une malédiction sur notre travail en termes humains. C'est pourquoi parfois on travaille et puis c'est pas aussi fructueux qu'on aimerait, il y a beaucoup d'efforts et de peine, de découragement, etc., etc. Mais Dieu, vous savez, est très têtu. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela dans votre parcours. Dieu est extrêmement têtu. Dieu ne renonce pas à ses projets, heureusement pour nous. Et Dieu a appelé un peuple, et avec ce peuple, Il a commencé par Abraham, avec lui il a tiré Israël, et bien il a refait son projet. Et donc à ce peuple, il a donné le commandement du sabbat, qui était dans un sens prophétique pour dire ça va revenir. Et ce que vivait Israël un jour par semaine annonçait prophétiquement ce sabbat éternel. Et Jésus-Christ arrive, et bien sûr, il fait un peu provoque hein, Jésus, et puis il travaille, il se permet de travailler le dimanche, etc. Enfin, pas le dimanche, pardon, le samedi, le jour du Shabbat en Israël, et puis ben là, les religieux, pharisiens, etc., ils sautent au plafond, parce que Jésus se permet de faire du travail pendant le sabbat, et c'était interdit. Et là, Jésus, à la Jésus, quoi, il leur sort la réplique cinglante, la gifle. Je suis le Seigneur du sabbat. Je suis le maître du sabbat. Et dans ce sens, Jésus rectifie la bonne compréhension du sabbat, mais plus que cela, Jésus est en train de dire qu'il réintroduit le peuple dans le sabbat. C'est lui qui restaure ce sabbat éternel. Savez, quand on devient chrétien, le salut remplit notre vie, nous sommes sauvés. Mais qu'est-ce qui est sauvé? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Alors notre âme est sauvée. Mais est-ce que ça s'arrête là? Et la bonne nouvelle qu'on découvre en fait tout au long de sa vie, c'est que tout dans notre vie est sauvé par le sang de la croix. Tout est racheté. Mon âme, mon être intérieur, mais aussi mon corps. Ça, c'est la preuve, c'est la résurrection. Mon corps aussi va être racheté. Il l'est déjà, et pas encore. Il va l'être pleinement un jour, quand Christ reviendra. Mais aussi mon travail. Mon travail est racheté. Le sens de mon travail est racheté. Tous les aspects de ma vie, des plus futiles, des plus éloignés de Dieu, comme on pourrait l'imaginer, comme je sais pas, la joie de jouer, par exemple, de faire des jeux, ou tout, absolument tout, est racheté. Et j'ai bien aimé cette formule, Marilène, quand tu as parlé dans ton introduction, Dieu est l'auteur de notre vie. Et Dieu est vraiment l'auteur de notre vie. Et Jésus-Christ est celui qui réécrit notre vie et qui est capable de réécrire nos trajectoires et de réécrire nos vies. Et donc, dans un sens, Jésus, quand nous devenons chrétiens, ce qu'il fait, on s'en aperçoit pas forcément au début, mais il nous relance dans le projet initial du Père. Il nous réintroduit dans le jardin, d'où Adam et Ève avaient été chassés à cause du péché. La Bible, le Nouveau Testament, insiste sur l'abandon des œuvres mortes, parce qu'en Christ, nos œuvres redeviennent vivantes. Notre travail, ce que nous faisons, nos activités, alors quand je parle de travail, je parle en fait de tout ce qu'on fait, pas forcément le travail rémunéré, mais ce qu'on fait dans l'Église aussi est un travail. Quand je vois Manu avec la louange, c'est un travail. Tout ce qu'on fait bénévolement, tout ce qu'on fait dans un cadre associatif, ou même les parents avec leurs enfants, c'est un travail. Donc, dans le mot travail, je mets tout ça. Hein. Et en Christ, nos œuvres redeviennent vivantes. C'est-à-dire que la vie coule à travers ces œuvres, que ces œuvres contribuent à la vie, que ces œuvres sont à nouveau connectées à ce que Dieu fait. En Christ, on est comme ces arbres qui donnent leurs fruits en leur saison. On est une meilleure image comme les sarments sur le qui portent beaucoup de fruits. Et en fait, en devenant chrétien, on devient ces sarments sur le cep, et c'est cette sève qui vient de Dieu, qui coule en nous, et qui nous permet de produire du fruit. Et notre travail, en étant devenu chrétien, a à nouveau ses fruits, parce qu'il est connecté à Dieu. C'est pourquoi il y a ces promesses dans la Bible. Tout ce qu'il fait réussit. Tu réussiras dans toutes tes entreprises, dit Dieu à Josué. Pourquoi? Parce que ce qu'ils faisaient, leur travail, était réinscrit dans ce jour béni, ce prolongement du travail de Dieu. Alors, travailler dans ces conditions, j'affirme que c'est reposant. Quand nous travaillons dans le bon cadre, dans le bon rythme, dans la bonne part, c'est le fardeau doux et léger que promet Jésus. Et même si dans ce travail, il y a de la fatigue qui vient, bien sûr, on donne de l'énergie, on donne de nous-mêmes, donc forcément il y a une fatigue, mais il y a un renouvellement de Dieu qui vient aussi, parce que Dieu remplit les vases que nous sommes, qui donnons. C'est comme un cycle, en fait, un cercle. Hein. Nous donnons, notre vase se vide, mais Dieu nous remplit. Et c'est comme ça que Dieu envisage le travail. Quand nous travaillons dans le plan de Dieu, dans le timing de Dieu, alors il y a une grâce et un repos qui est là. Et je crois que là, c'est ça le défi. C'est de travailler avec Dieu. Il y a je crois que c'est un proverbe qui dit « Dieu est ton ombre à ta main droite ». Dieu est l'ombre de notre main droite. Qu'est-ce que ça veut dire? La main droite, en fait, c'est la main qui travaille. C'est la main active. Et l'ombre, ben, ça veut dire qu'en fait, Dieu est toujours là avec ce que nous faisons. Il accompagne exactement tout ce que nous faisons. Alors ça, c'est ce que la Bible nous dit, nous invite, c'est ce que Jésus-Christ nous permet de vivre. Et je voulais illustrer tout ça avec un personnage biblique que j'ai remédité cet été, et que nous connaissons bien, c'est Moïse. Et je voudrais redire ce que j'ai dit là, mais avec Moïse. Quand on lit Moïse, je pense tout le monde connaît l'histoire. C'est une histoire qu'on connaît bien, et parfois on peut oublier, ou au moins on peut cesser de méditer. Et moi je vous invite à méditer la vie de Moïse, parce qu'elle est tellement profonde, chacun peut retirer quelque chose de sa vie. Et en fait, il a une vie tellement riche et qui parle à tout le monde. Et c'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'être un leader quelque part ou un ministère pour profiter de ce qu'il nous dit. Je crois que la vie de Moïse parle à chacun d'entre nous. Et je vais un peu retracer son parcours. Donc Moïse, il n'a pas de bol au début. Il naît à la mauvaise époque et dans le mauvais peuple. Donc une époque où on veut tuer tous les enfants hébreux. Et lui, ben voilà, il est là et puis. Dès sa naissance, il devait être tué par ordre du pharaon. Et puis, bon, on sait que sa maman l'a trouvé tellement beau qu'elle a désobéi à pharaon, et donc elle lui a fabriqué un petit radeau, et puis elle l'a mis sur le fleuve, et puis elle l'a confié à Dieu. Et là, la princesse, fille de pharaon, le trouve, est émue de compassion, et puis le sauve. Et Moïse grandit à la cour. Et là, le texte dit très rapidement qu'il a un sens de sa destinée. Il a une intuition. Il se dit, mais Dieu veut faire quelque chose avec moi. Et il se rapproche de ses frères, les Hébreux, alors qu'il était quand même peinard chez les pharaons, à la cour, etc. Et donc, il se rapproche parce qu'il y a une intuition en lui sur le sens de sa vie. Il dit, mais j'ai quelque chose à faire avec mes frères, les Hébreux. Donc, il se rapproche d'eux. Et là, on connaît l'épisode. Il essaie de défendre un Hébreu, il tue un Égyptien. Et puis après, le lendemain, il essaie d'arranger deux Hébreux qui se querellaient. Et puis, il se fait menacer. Et là, c'est vraiment la catastrophe, parce qu'ils ont appris qu'il a tué un Égyptien. Et il doit se sauver. Et il s'enfuit d'Égypte. Et il quitte tout, il abandonne tout. Il perd tout, en fait. Et donc, le résultat, c'est qu'il est rejeté par ses frères, qu'il avait à cœur d'aider. Les Égyptiens veulent le tuer, et puis il a tout perdu. Voilà. Donc l'échec monumental, et là on voit Moïse quasiment abandonner cette intuition qu'il avait à destinée, et puis il se marie avec Séphora, il a des enfants, il devient berger, et puis il a une vie tranquille, et il l'oublie. Je pense qu'il l'oublie, cette intuition qu'il avait de sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Moïse, il avait mis tout son cœur, toute son ardeur pour faire une œuvre bien au-dessus de ses forces. Mais il sentait que Dieu voulait qu'il fasse cette œuvre. Il était touché par le sort des Égyptiens, mais ça s'est révélé à travers cet échec que c'était bien, bien, bien au-delà de ses forces. Et pour faire le parallèle avec la Genèse et avec ce que je viens de raconter, c'est comme si Moïse, dans un sens, était attaqué au chaos, informe et vide, et qu'il avait voulu, par ses forces, par ses moyens, en faire un jardin. Mais ce n'était pas sa part. Ce n'était pas sa part. Et puis quand on avance dans le texte, on voit vraiment Moïse, il était venu, mais avec une telle naïveté, il n'avait aucun plan pour s'attaquer à un projet, mais tellement grand, il n'avait pas la force, ni la puissance, ni l'intelligence. Enfin, on se demande s'il n'a pas réfléchi, quoi. Donc, voilà, Moïse est là, avec tous ses regrets, puis il oublie, je crois qu'il a renoncé, abandonné à sa destinée. Et à ce moment-là, Dieu l'appelle. Et là, c'est vraiment la révélation, le buisson qui se met en feu, le grand jeu, quoi. Parce que Dieu ne veut pas nous laisser renoncer à notre destinée. Il a mis pour chacun d'entre nous une destinée. Il y a quelque chose dans nos cœurs qui est là et qu'on peut-être on a cette intuition comme Moïse. Et puis peut-être que vous êtes là et vous êtes à un moment de votre vie où vous avez abandonné ou mis de côté, vous ne voyez plus comment faire. Mais à un moment, Dieu arrive et il relance le truc. Et là, Dieu vient et il confirme à Moïse qu'il ne s'était pas trompé, et il lui révèle même, avec des détails, sa destinée, les plans que Dieu avait pour Moïse. Et Dieu lui parle beaucoup. Dieu lui parle beaucoup. Ça me fait penser à ce que Fabienne nous partageait la semaine dernière, l'importance du repos dans la prière. La prière est reposante, ce que tu disais. Et dans cette prière, on peut entendre Dieu. Dieu nous parlait. Dieu lui parlait beaucoup. Et Dieu lui explique son plan. En fait, Dieu a un plan. Moïse, il avait pas de plan, ou un petit plan. Mais Dieu a le plan, celui qui marche, quoi. Et Dieu lui donne un plan, des conseils, mais aussi la puissance. Alors, le bâton que tu jettes et puis se transforme en serpent, ou voilà. Des petites bricoles comme ça aide, hein. Ça aide bien. Mais Dieu lui donne de la puissance. En fait, on réalise que Dieu, il avait déjà préparé tout, et Moïse devait juste venir et s'inscrire dans cette préparation de Dieu. Un peu comme Adam qui arrive au sixième jour. Dieu avait préparé plein de choses pour Moïse, mais Moïse avait voulu faire ce travail par lui-même. Et c'est là où il y a eu l'échec. Mais quand Moïse a capitulé, puis il a laissé Dieu faire son travail, et quand Moïse arrive le sixième jour, eh bien ce qu'il fait marche, réussit, parce que son travail était inscrit dans ce que Dieu faisait. C'est ça le repos. Et ce qui est beau dans ce texte de Moïse, c'est qu'on voit Moïse, il est stressé au début. Mais Dieu, non, j'y arriverai jamais, ils me croiront jamais, puis qui je suis. Parce qu'il s'était pris telle claque avant qu'il savait bien ce que ça faisait. Il n'en voulait pas une deuxième. Hein. Mais on voit Moïse se détendre au fur et à mesure. Moïse devenir silencieux devant Dieu. Moïse faire confiance en Dieu. Moïse entrer dans le repos de Dieu. Et là, on voit vraiment un Moïse progressivement qui entre dans le sabbat, dans le septième jour pour lui. Il entre dans sa destinée et ce qu'il fait réussit. Et c'est ça que Dieu nous invite à faire. Et ce qui m'a touché vraiment dans ce texte, j'ai réalisé, mais en fait, ce que Dieu veut faire avec nos vies est tellement important. Tellement important. Et peut-être on ne fera pas des choses comme Moïse spectaculaires, mais ça ne veut pas dire que ce que nous ferons n'est pas important. Ce que chacun de nous va faire avec Dieu est tellement important. Et nous ne nous en rendons pas compte. Et j'en veux pour preuve le prix de notre rachat. Christ, le Fils de Dieu sacrifié pour nous racheter. La immensité des promesses qui nous sont faites. Tout ce que tu feras réussira. Et puis, le fait que nous sommes enfants de Dieu, image de Dieu en ce monde. Chacun de nous ici dans cette salle. À cause de ça, je ne peux pas croire que notre Père Céleste ne veuille pas faire des choses importantes dans son œuvre avec chacun de nous. Et à cause de cela, le repos de Dieu doit être vraiment pris au sérieux. Il nous faut marcher dans ce repos. Comme dit Hébreu, le texte en hébreu que j'ai cité, empressons-nous d'entrer dans ce repos-là. Ce repos qui fait que nous avançons, nous nous fatiguons, mais Dieu nous régénère au fur et à mesure de notre marche. Et Dieu nous conseille, où le stress, la pression, on apprend à la faire descendre, parce qu'il y a une confiance, il y a une intimité, il y a une connaissance de Dieu qui grandit au fur et à mesure de la marche. Et puis on voit la puissance de Dieu agir à travers notre vie. Je crois que Dieu ne nous appelle pas à autre chose que cela. Notre travail n'est pas autre chose que cela. Et ce n'est pas qu'on est tous à servir Dieu dans une église, à faire l'évangélisation, etc. Non, 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 Dieu est le maître des mathématiques, par exemple. Moi, j'aime les maths. C'est lui qui a créé les mathématiques. Il n'y a pas des choses profanes, des choses sans Dieu. Dans la création, tout est imprégné de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Alors, quelle que soit notre activité, qu'on fasse des maths, qu'on élève nos enfants, qu'on fasse des choses qui, peut-être, on ne voit pas le lien, on se dit, mais c'est complètement inutile, ça ne sert pas Dieu. Mais si, ça sert Dieu. Dieu s'en sert. Et quand tu cherches à servir Dieu, Paul dit, mais fais tout pour la gloire de Dieu. Quand tu es dans cette disposition-là, Dieu l'utilise. Et Dieu t'apprend et veut t'apprendre, comme à Moïse, à entrer dans ce repos et à faire des choses de plus en plus précises, de plus en plus fructueuse, là où tu es, auprès des personnes avec qui tu es, que tu fasses du ménage ou que tu prêches. Voilà, c'est pas une question de ça. Et je voudrais terminer sur cette merveilleuse parole. Jésus, à la fin de sa vie, il a dit « Tout est accompli. » Sixième jour, tout est fait. Dans une parabole des noces, il invite et il dit « Venez, tout est déjà prêt. » Ça veut dire que nous n'avons juste à suivre et à entrer dans des œuvres préparées d'avance pour nous, mais ces œuvres, ça va réussir. Et dans un sens, j'ose dire, ça va être facile. Nous sommes bénis. On est vraiment, vraiment, vraiment bénis. On est aimés. On a un grand Dieu. Il a des projets merveilleux pour nous. Il nous veut vivre ce repos, nous appuyer, nous reposer sur Dieu. Amen.